présenté ce soir par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Aucune menace pour la santé des habitants après l'incendie de l'usine de Rouen. Devant les parlementaires, le PDG de Lubrizol s'excuse et promet des indemnisations, mais il se veut surtout rassurant, compte rendu d'Anne Fauquemberg. Contre l'agribashing, des agriculteurs se rassemblent devant les préfectures et réclament le soutien du chef de l'État. Des manifestations également en Allemagne sur le même thème, explication de Ludovic Piétenu. Vladimir Poutine reçoit le président turc qui lui menace de relancer son offensive dans le nord-est de la Syrie. Pendant ce temps, Bachar al-Assad se rend à Idlib et affirme sa volonté d'y remporter la bataille, analyse de Christian Chesneau. Et puis au Chili, le président Piñera réunit les partis politiques pour tenter de trouver une issue à la violente crise sociale qui a fait 15 morts en 5 jours. Nous irons à Santiago. Le PDG du groupe américain Lubrizol a été entendu successivement aujourd'hui par les députés puis les sénateurs. La mission d'information de l'Assemblée nationale et la commission d'enquête du Sénat ont tenu à entendre les explications d'Éric Schnur sur l'incendie survenu le 26 septembre à Rouen. L'incendie qui a ravagé l'usine classée Seveso suscite toujours beaucoup d'angoisse compte tenu des milliers de tonnes de produits chimiques qui ont brûlé, dégageant des fumées nauséabondes et irritantes. Bonsoir Anne Fauquemberg.
Bonsoir.
Le PDG de Lubrizol affirme qu'il n'y a aucun risque pour la santé.
Oui, il l'a dit, répété, première version du PDG américain, c'était ce matin à l'Assemblée nationale et c'est donc traduit de l'anglais.
Nous pouvons affirmer que ces substances ne portent aucune menace sur la santé, ni à court terme, ni à long terme, en dehors de l'irritation passagère normalement provoquée par la fumée le jour de l'incendie.
Au Sénat, cet après-midi, après avoir prêté serment, ce chimiste de formation ajoute quelques précisions.
90% des matières sont de carbone hydrogène. Il n'y a aucune différence significative entre ce qui a été brûlé dans le feu et ce que l'on peut trouver brûlé dans un incendie, par exemple dans une maison et même dans des maisons ou des logements, les fumées peuvent être encore plus toxiques.
Alors Éric Schnur ne voit bien qu'il a du mal à convaincre les élus. Les questions reviennent sur l'irritation, notamment combien de temps celles-ci peuvent durer. Il dit comprendre les doutes et devant l'insistance des sénateurs, il se dit ouvert à fournir toutes les informations du toxicologue de Lubrizol et les études commandées aussi à des experts extérieurs.
L'autre sujet délicat, Anne, c'est la question des indemnisations, notamment celle des agriculteurs. Éric Schnur essaye de convaincre de sa bonne volonté.
La ligne du PDG est exactement la même. Beaucoup d'excuses qui sont répétées et cette volonté d'être, je cite, un bon voisin. Il dit qu'il est en France cette semaine pour traiter de cette question des indemnisations. Agriculteurs, éleveurs et maraîchers sont particulièrement concernés. Le PDG serait sur le point de conclure un accord initial avec le Fonds de mutualisation des risques sanitaires et environnementaux, le FMSE.
Nous sommes engagés à verser des millions d'euros et nous augmenterons le montant si c'est nécessaire. Ce qui est le plus important pour nous, c'est que cet argent arrive chez les personnes qui en ont le plus besoin rapidement.
Un patron qui néanmoins ne se prononce pas sur une estimation globale du préjudice avec éventuellement des rebondissements à long terme, lui font remarquer les sénateurs. Il a aussi beaucoup répété que l'incendie s'est déclenché, selon ses informations, à l'extérieur du site Seveso et qu'il n'en connaît pas pour l'instant ni la source ni la cause.
Anne Fauquemberg. En déplacement à Mayotte, Emmanuel Macron promet du concret contre l'immigration illégale et pour le développement économique. Le président adresse aux Mahorais un message de fermeté. Il veut augmenter les reconduites à la frontière et améliorer la collaboration avec les Comores pour éviter les départs. Car l'archipel fait figure d'Eldorado pour les Comoriens qui tentent souvent la traversée au péril de leur vie. On retrouve notre envoyé spécial à Mayotte, Yannick Falt.
Emmanuel Macron a tout de suite donné le ton dès son arrivée sur l'île. L'aéroport Dzaoudi est situé sur Petite Terre. C'est par voie maritime qu'il a ensuite gagné Grande Terre à Mamoudzou, la capitale économique de l'île. Mais pas question pour lui de traverser avec la barge qu'empruntent les habitants tous les jours. Le chef de l'État est monté à bord d'un intercepteur, un gros zodiac utilisé par les forces de l'ordre pour débusquer les Kwasa Kwasa, ces embarcations utilisées par les passeurs comoriens. Intercepteur dans le cadre de l'opération Chicandra lancée cet été, de nouveaux moyens humains et matériels pour tenter d'améliorer la lutte contre l'immigration clandestine et le nombre de retours à la frontière.
La France, c'est d'abord la sécurité. Il y a aujourd'hui 1500 personnes, des soldats, des marins, des policiers, des gendarmes, des douaniers. Ce seront plus de 25 000 reconduites qui seront effectuées cette année. Et donc la sécurité, sera au rendez-vous en matière de lutte contre l'immigration clandestine.
Le chef de l'État, accueilli sur l'embarcadère de Mamoudzou, accueille très organisé et sous haute sécurité, avec des femmes en salouva, les tenues traditionnelles mahoraises, drapeau tricolore en main et au son des mbiwi, des bouts de bambou qui s'entrechoquent. Mais plus que le folklore local, c'est la fermeté du discours qu'on le retiendra.
Le chef de l'État se rend demain à La Réunion, où un appel à la grève générale a été lancé. Ils se sont donné rendez-vous devant les préfectures pour interpeller Emmanuel Macron. Des agriculteurs se mobilisent un peu partout en France à l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs pour demander un soutien clair du président. Ils critiquent la loi alimentation et les accords de libre-échange avec des pays ne respectant pas les mêmes normes environnementales que nous. Ils se sentent en danger et ils ont sorti leurs tracteurs pour bloquer routes et autoroutes. À Nîmes, du purin a été déversé devant des centres des impôts. Il y a eu des incidents avec les forces de l'ordre, projectiles contre gaz lacrymogène. Le reportage de Ludovic Labastro.
Une centaine de tracteurs ont paralysé pendant près de 3 heures le trafic de la 9. Le convoi s'est ensuite dirigé vers le centre de Nîmes pour déverser du lisier devant les 3 centres des impôts des agriculteurs gardois à bout, Christian Colotti et maraîcher en bio.
Ici en France, on est plus cher que tout le monde parce qu'on a des charges énormément élevées, on a des contrôles énormément élevés, un coût de production qui est trop cher. Donc nous, on ne voudrait pas vivre de subventions. Nous, ce qu'on voudrait pouvoir, c'est vivre de notre travail.
Quelques heures avec les gendarmes sur la 9 lors d'un contrôle de la cargaison d'un camion espagnol, puis avec la police à Nîmes, Mathieu Manetti des jeunes agriculteurs du Gard.
On s'est fait de suite gazer, grenade directement sans aucune sommation. On savait qu'on allait être accueillis, on pensait être accueillis un peu mieux que ça. Si on n'arrive pas à se faire entendre, c'est nos exploitations qui sont mises en danger. On fera en sorte d'être entendu.
Une délégation a été reçue, elle espère que le président Macron entendra la détresse des paysans et réclame en outre des mesures spécifiques pour le Gard, touché par le gel, la sécheresse et les incendies.
Les agriculteurs français se disent victimes de stigmation, d'agribashing, un sentiment partagé également par les agriculteurs allemands, Ludovic Piétenu.
Oui, des centaines de tracteurs dans les rues de Berlin, Hanovre ou Munich. Les automobilistes coincés dans les embouteillages se voient remettre des sacs de pommes de terre pour soulager leur attente. À Bonn, ils étaient 7000 agriculteurs venus de tout le pays contre une loi du gouvernement qui prévoit une réglementation de plus en plus stricte, trop stricte selon eux en matière d'environnement et de protection des insectes et des oiseaux. Comme en France, le gouvernement allemand veut interdire le glyphosate. Ce défilé de tracteurs visait à obtenir l'oreille des deux ministres concernés. Et le soutien de la population, explique cet agriculteur interrogé à Beyrouth par la radio publique bavaroise.
Nous aimerions simplement être entendus, dit cet agriculteur. Nous n'avons rien contre la protection des insectes ou des nappes phréatiques. On veut bien tout ça, mais nous aimerions en discuter.
Beaucoup d'automobilistes allemands klaxonnent vigoureusement. Ils ne sont pas de notre côté, témoignent certains agriculteurs. Logique, car en Allemagne, Aurélie, la protection de l'environnement est le sujet de préoccupation première dans l'opinion publique, ce qui complique bien sûr le combat des agriculteurs.
Ludovic Piétenu, correspondant de France Culture en Allemagne. Patrick Balkany demande un peu d'humanité. Le maire de Levallois-Perret, qui dort en prison depuis plus d'un mois, s'est présenté devant la cour d'appel de Paris pour demander sa mise en liberté dans la première des deux affaires pour lesquelles il est incarcéré. Bonsoir Florence Turm.
Bonsoir.
Le 13 septembre, il avait été condamné à 4 ans ferme avec mandat de dépôt pour fraude fiscale.
Oui, chemise blanche, sous un pull de laine gris clair, les épaules voûtées, Patrick Balkany prend place dans le box des prévenus, juste devant le policier qui l'escorte. C'est sa première apparition en public depuis son incarcération le 13 septembre dernier, immédiatement après sa condamnation. Tout au long de son procès, le maire de Levallois était apparu très combatif, avec des propos acerbes vis-à-vis de l'accusation. Il semble aujourd'hui fatigué, profil bas et débit de parole ralenti d'un homme qui cherche parfois ses mots. Face au président de la cour, il invoque à la fois son âge et son état de santé. « Je suis très fragile du cœur, je demande simplement un peu d'humanité, je souffre énormément et j'ai besoin de me soigner. » Mais l'avocat général, ce même procureur qui avait requis le mandat de dépôt à l'audience, se déclare fermement opposé à cette demande de mise en liberté, sous réserve d'une expertise médicale. « Je considère que le risque de représentation est trop faible », argumente le magistrat, avec une propension certaine de M. Balkany à fuir ses responsabilités. Le fantasme de la fuite s'exclame en retour Éric Dupond-Moretti pour la défense. Mais pour aller où et faire quoi? Sa femme est ici, sa famille, sa maison aussi, et son passeport est entre les mains de la justice. La cour rendra sa décision décision lundi prochain. Mais quoi qu'il en soit, Patrick Balkany restera en prison le temps que sa seconde demande de mise en liberté soit examinée. Vendredi dernier, le tribunal correctionnel a prononcé en effet une nouvelle condamnation à 7 ans de prison, assortie d'un autre mandat de dépôt qui deviendrait alors effectif.
Florence Turm. Il l'a déjà dit maintes fois, Boris Johnson ne veut plus de report du Brexit. Alors le Premier ministre britannique menace de retirer le projet de loi sur l'accord de Brexit et de demander des élections anticipées si les députés rejettent son calendrier. Le Parlement britannique doit procéder ce soir à 2 votes préliminaires sur l'accord conclu la semaine dernière entre Londres et Bruxelles. Quelle que soit la situation à Londres, l'équipe de la Commission européenne qui a négocié l'accord du Brexit va devenir un groupe de travail sur les relations avec le Royaume-Uni et va entamer ses travaux le 16 novembre. Ce groupe de travail va finaliser les pourparlers de rupture, préparer la commission à un no deal, définir les modalités de la future relation avec le Royaume-Uni. Voilà ce que nous explique l'exécutif bruxellois. Et il sera toujours dirigé par Michel Barnier, dont le nom circulait ces derniers jours pour remplacer Sylvie Goulard comme candidate à un poste de commissaire européen. Angélique Boin.
Oui, bonjour, je suis donc à Strasbourg. Effectivement, dans les couloirs, on en parle. Macron n'a pas besoin de chercher un commissaire. Il en a un sous la main, dit avec une pointe d'admiration Raphaël Glucksmann. Je suis un fan, ajoute même en souriant l'eurodéputé social-démocrate. Et il n'est pas le seul ici. Auréolé de cet accord sur le Brexit, l'ancien ministre gaulliste est une véritable star dans les couloirs du Parlement, à gauche comme à droite et au sein de tous les États membres. Mais de là, tout de même, à devenir le prochain commissaire français, rien n'est moins sûr, même si tout peut arriver. Et c'est chez les macronistes que la réplique est assez rude. On salue certes ses qualités, mais le candidat sera celui de la France, pas celui du système, pas celui de Bruxelles, tacle Stéphane Séjourné, le chef de file de la délégation française du groupe centriste Renew. Michel Barnier lui-même le voudrait-il? Rappelons qu'il a déjà été 2 fois commissaire avec un très large portefeuille, le marché intérieur déjà. Il s'est vu aussi président de la commission avant que n'émerge le nom d'Ursula von der Leyen. Quand bien même on lui proposerait ce poste de commissaire, ce serait très surprenant qu'il accepte qu'on file un de ses très proches. Michel Barnier qui, quoi qu'il en soit, ne se retrouvera donc pas au chômage, vous l'avez dit. La future patronne de la Commission a confirmé cet après-midi qu'elle le gardait dans son équipe. Après avoir géré l'accord de défaisance, comme il le qualifie avec les Britanniques, eh bien le négociateur vient d'être officiellement chargé de négocier les retrouvailles, le futur accord commercial, notamment entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.
Angélique Boin, en direct donc de Strasbourg. Vladimir Poutine reçoit son homologue turc à Sotchi, dans le sud de la Russie. Il cherche à éviter la reprise de l'offensive militaire turque dans le nord-est de la Syrie. Recep Tayyip Erdogan réclamait le retrait des combattants kurdes de cette zone, sans quoi il menaçait de mettre un terme au cessez-le-feu. Ce soir, les combattants kurdes disent s'être justement retirés de la zone de sécurité voulue par la Turquie. L'intervention turque est pour l'instant favorable au régime syrien et Bachar al-Assad a effectué une visite surprise et inédite sur la ligne de front aujourd'hui dans la région d'Idlib. Pour le président syrien, c'est là qu'aura lieu la dernière bataille pour mettre fin à la guerre qui déchire le pays depuis 2011, Christian Chesneau.
Alors que le monde a les yeux braqués sur le nord-est syrien après l'offensive turque contre les Kurdes, Bachar al-Assad affiche lui sa priorité, reconquérir Idlib, la dernière poche qui échappe encore à son contrôle. Il s'est même payé le luxe aujourd'hui d'une visite sur le terrain posant au milieu de ses soldats qui ont repris la localité d'El Abit au groupe rebelle dominé par les djihadistes. De son point de vue, la bataille d'Idlib est la base pour mettre fin au désordre et au terrorisme dans toutes les régions syriennes, a-t-il déclaré. Une victoire dans cette région de 3 millions d'habitants, dont la moitié de réfugiés, couronnerait sa stratégie de reconquête des territoires perdus depuis la révolte de 2011. Jusqu'à présent, c'est le président turc Erdogan qui retenait le bras de Bachar al-Assad via les Russes, mais la donne a changé. Depuis, Vladimir Poutine et Donald Trump ont laissé des troupes d'Ankara entrer en Syrie pour affronter les Kurdes. Le régime syrien a-t-il reçu en échange le feu vert de Moscou et d'Ankara pour passer à l'offensive à Idlib? Tout le laisse à penser. D'ailleurs, les frappes syro-russes se sont intensifiées ces derniers jours contre la poche rebelle.
Au Chili, le président Piñera se montre à présent plus conciliant. La violente crise sociale qui a éclaté il y a 5 jours a fait 15 morts selon le dernier bilan. Jugeant que son pays était en guerre, Sébastien Piñera avait d'abord décrété l'état d'urgence. Il a changé de ton et réunit en ce moment l'ensemble des partis politiques dans l'espoir de trouver une issue à la crise. Mais les manifestations motivées initialement par la hausse du ticket de métro devraient se poursuivre. Le reportage de Clara Dantec à Santiago du Chili.
Lautaro González a regardé le discours du président chilien chez lui lundi soir, quelques minutes après l'entrée en vigueur du couvre-feu mis en place pour la troisième nuit consécutive à Santiago. Ce retraité se dit dépité par l'action du gouvernement.
Le président Piñera ne devrait pas avoir besoin de consulter les partis politiques. Il sait très bien quels sont les problèmes à régler dans la société. La situation économique est très mauvaise, il devrait le savoir. Par exemple, l'eau et l'électricité ont beaucoup augmenté et ça devrait prendre encore 10%. C'est tout ça qui pousse les gens à sortir dans la rue.
Chris Fuentes, jeune publiciste, est également indigné par le discours du président qui a une nouvelle fois mis l'accent sur les incidents violents de ces derniers jours.
Piñera n'a donné de solution à aucune demande sociale. Pendant toutes ses conférences de presse, il n'a fait que parler de pillage et de violence, alors qu'on sait tous que cela vient de groupes minoritaires. Ici, il n'y a pas de guerre. Nous sommes tous unis. C'est ça qu'on essaie de défendre.
Chris attend des annonces concrètes, des mesures en faveur du pouvoir d'achat, mais aussi une amélioration des systèmes de santé publique et d'éducation. Comme elle, de nombreux Chiliens estiment que leur gouvernement est déconnecté des demandes de la société.
Clara Dantec à Santiago pour France Culture. La promesse de tolérance zéro contre les cris racistes dans les stades va-t-elle enfin être appliquée en Italie ? Dimanche, le club de l'AS Roma a présenté ses excuses après les insultes proférées par certains de ses supporters envers le milieu de terrain de la Sampdoria de Gênes, Ronaldo Vieira. Et de son côté, la Fédération italienne de football vient d'annoncer une série de mesures. Il faut dire, Cédric Guillou, que le mal est profond en Italie.
Les dérapages xénophobes, racistes ne se limitent pas dans le football italien à quelques tribunes infectées. Il se multiplie aussi dans les coulisses. Claudio Lotito, président de la Lazio de Rome, au début de l'automne.
Quand j'étais petit, il y avait souvent des gens qui n'étaient pas de couleur, qui avaient la peau normale, blanche, à qui on faisait bouh pour les pousser à manquer le but quand ils arrivaient devant le gardien.
Voilà aussi ce que l'on peut entendre sur une chaîne de télévision sportive italienne.
Un joueur comme Lukaku, le seul moyen de l'arrêter, c'est de lui donner 10 bananes à manger.
Le milieu du football s'est ouvert tardivement en Italie à la diversité et donc aux joueurs africains. Dominique Courdier, directeur associé de New Stank Football, a été l'envoyé spécial de l'équipe en Italie pendant 15 ans.
Je pense déjà qu'il y a un phénomène culturel. L'Italie est un pays d'émigration et est devenu pays d'immigration il y a assez peu de temps. Quand De Sailly, par exemple, est arrivé à l'AC Milan en 1993, c'était un des premiers joueurs noirs à jouer en Italie.
Le journaliste italien Andrea Siliti. Il travaille pour la chaîne Sky Sport Italia.
La majorité des supporters de Serie A sont de extrême droite. Et la droite en Italie maintenant est très forte. Donc, ils ne se sont pas menacés. Quand on voit dans l'autre équipe le joueur de couleur, c'est la chose plus facile, c'est de faire un show raciste.
Évidemment, tout le monde s'indigne. Mais il y a encore quelques semaines, ils étaient très peu à s'être vraiment emparés du sujet. Pas grand monde, ou presque, ne poussait la réflexion pour cerner les coupables et les responsabilités de la mauvaise réputation des tribunes italiennes. Le journaliste Dominique Courdier.
Les supporters de l'Inter sont capables de dire à leur joueur, à Lukaku qui se fait insulter, mais non, mais s'il y a des cris de singe, c'est parce que les supporters te craignent, ils ont peur que tu marques. Je pense que pour traiter le problème, il faut d'abord admettre qu'il y a un problème.
Visiblement, Gianni Infantino l'a compris. Il y a un mois, l'Italo-Suisse, président de la FIFA, a durci le ton.
Ce n'est pas acceptable. Nous devons l'affirmer, pas de racisme dans le football. Nous devons le vaincre, en Italie et dans le reste du monde.
Depuis début octobre, la Fédération et la Ligue de football en Italie ont emboîté le pas à Infantino et annoncé plusieurs mesures que les clubs italiens devront respecter afin de lutter contre les actes xénophobes et racistes. Arrêt de match temporaire ou total, rencontre à huis clos pour les clubs coupables. Le milieu terrain français de la Juventus Turin, Blaise Matuidi, avait été victime d'insultes racistes lors d'un match à Cagliari au mois d'avril.
Ça avance dans le bon sens et c'est une très très bonne chose.
Aujourd'hui aussi, il y a des initiatives de dirigeants de clubs. Wolfgang Natlasem, franco-italien de 35 ans, a créé un petit club en banlieue de Milan en 2015. L'AS Velasca, c'est son nom, évolue aujourd'hui en 9e division italienne. L'an dernier, il a emmené une quinzaine de joueurs et dirigeants de son club à Soweto, en Afrique du Sud. Visite du musée de l'apartheid au programme.
Les joueurs qui étaient plus xénophobes étaient bien évidemment les joueurs qui avaient le plus peur. La plupart, c'était la première fois qu'ils allaient en Afrique. Beaucoup sont revenus différents. Et certains m'ont écrit en me disant « Oui, je suis parti avec des préjugés, je suis revenu différent, qu'est-ce que j'étais con ?»
Cette initiative n'a pas du tout été saluée par les instances du football italien, ce qui fait dire à Wolfgang Natlasem, comme à beaucoup d'autres, que le chemin sera long, très long, avant d'assainir les tribunes italiennes.
Un dossier signé Cédric Guillou. Demain mercredi, Météo France prévoit un temps couvert et perturbé. 6 départements sont placés en vigilance orange pour orages et pluies inondations. L'Aveyron, le Gard, le Tarn et pour l'Aude, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales, il faudra également s'attendre à des risques de vagues submersion. L'Andorre est également en vigilance orange. Les températures, 6 à 10 degrés le matin sur la moitié nord du pays, 10 à 20 sur la moitié sud. Les maximales s'échelonnent l'après-midi de 14 à 21 degrés des côtes de la Manche jusqu'à la Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.